Alors, ça recommence.
Orange juice with that ice, madame.
Fait pour, hein.
Non?
Puis on a de la chance, parce que...
Bon.
Hey.
Est-ce que vous avez tous compris?
Psst. L'été, comme jamais.
Je n'écris presque jamais de lettres manuscrites, mais certaines adresses me donnent envie de prendre la plume. La rue Rosa Bonheur à Bordeaux, par exemple. Quel plaisir d'écrire ce joli nom sur une enveloppe. Marie-Rosalie Bonheur, artiste du 19e siècle, aimait peindre les animaux. Ce n'est pas un pseudo, elle s'appelait vraiment Bonheur. Son coup de pinceau pour saisir la silhouette d'un cheval ou d'une vache était une pure merveille. Aussi est-il mérité que son nom soit devenu aussi célèbre que celui de Degas ou Monet. Attendez, non, elle est un peu moins connue, pardon. Sans doute n'avait-elle pas assez de talent, alors autant pour moi. Heureusement, Rosa Bonheur est sur les plaques de rue à Bordeaux, à Paris et à Wascal. Sauf que, en France, 2% des rues portent des noms de femmes. Pourquoi l'histoire avec un grand H a-t-elle retenu aussi peu de destin féminin? Voilà la question qui nous occupe jusqu'à 11h. Aux grandes femmes, la patrie reconnaissante. Soyez les bienvenus.
Dorothée Barba, 9h-11h, sur France Inter.
Trois invités autour de cette table. La première est comédienne et autrice. Bonjour Audgoni Goubert.
Bonjour Dorothée.
Bienvenue. V comme Virago, c'est une chaîne YouTube dans laquelle vous proposez des portraits, souvent très drôles, de femmes qui ont fait des choses extraordinaires et dont souvent personne n'a jamais entendu parler. Ça a aussi donné un livre aux éditions First, V comme Virago. Ophélie Latil est à vos côtés. Bonjour.
Bonjour Dorothée.
Vous avez créé un cabinet de conseil qui travaille sur l'invisibilisation des femmes au travail. Très dur à prononcer ce mot, je vous remercie pas. Et vous êtes la fondatrice du collectif Georgette Sand, à qui on doit ce livre « Ni vu, ni connu », c'est au féminin pluriel bien sûr, « Panthéon, histoire et mémoire, où sont les femmes ?» chez Hugo Doc. C'est disponible également en livre de poche chez Pocket. Et enfin, Mam Fatou Niang, bonjour.
Bonjour.
Enseignante, chercheuse, vous enseignez la littérature française dans une université américaine, la Carnegie Mellon de Pittsburgh.
Exactement.
Et vous avez réalisé en 2015 un documentaire intitulé « Marianne Noire ». On va essayer de raconter des destins de femmes qui méritent qu'on retienne leur nom ce matin et surtout comprendre pourquoi tout le monde les a oubliées. Mais d'abord, comme tous les jours, un coup d'œil à la presse. Et le vendredi, on lit Vanity Fair. Bonjour Joseph Ghosn.
Bonjour.
Directeur de la rédaction de Vanity Fair. Voici une histoire dont Ennio Morricone aurait pu signer la BO.
Absolument.
Le prince, le flambeur et le faussaire. Nous sommes au Royaume-Uni. En 2017, le prince Charles se fait prêter 17 tableaux.
Tout à fait.
Des chefs-d'œuvre, hein, parmi lesquels on trouve un Picasso, un Dali, un Monet. Et celui qui lui prête ses toiles est un certain James Stunt. Qui est cet
Tout
homme
à fait. Alors, je précise que l'histoire se passe entre Londres, la Californie et un manoir écossais.
Mm-hmm.
Un manoir écossais que le prince Charles a fait réhabiliter, parce qu'il était sur le point d'être démantelé avec tout son mobilier qui allait partir. Le prince Charles l'a fait réhabiliter et il expose là, on expose là des toiles, des œuvres, etc.
Et c'est le siège social de sa fondation caritative.
Mm. Voilà. Et on peut y admirer à la fois les aquarelles du prince Charles dans une pièce qui
leur est
réservée, absolument, et aussi les toiles qu'il aime et les toiles qu'on lui prête ou qu'il collectionne. Et il se trouve que à la fin de 2019, le Daily Mail sort un article qui dit certaines des toiles exposées par le prince Charles sont des faux.
Et notamment les quatre toiles de maître.
Et notamment les quatre toiles de maître qui sont assurées pour 120 millions d'euros, quelque chose comme ça, enfin une somme faramineuse.
Voilà, le grand amateur d'art s'est fait berner.
Exactement, berner, mais berner par quelqu'un qui a priori lui a prêté plutôt de bonne foi ses toiles. Sans préciser évidemment qu'elles sont fausses, mais parce qu'il aimait bien le prince Charles, il avait envie de lui faire une faveur, parce que c'est une sorte de royaliste un peu fou, mais surtout c'est un arnaqueur, un grand arnaqueur qui s'appelle James Stunt. Pour vous résumer le personnage, il y a une citation de lui dans l'article qui résume un peu son mode de vie, où à un moment il dit prenons de la cocaïne et balançons des nains de jardin contre les murs.
Voilà.
Donc sa vie
c'est
un peu ça, absolument très recommandable, qui a fait un mariage plutôt riche avec une héritière de la Formule 1, donc énormément d'argent, ça se passe dans un manoir à Los Angeles, à Londres, etc. Mais très vite cet homme-là, pour séduire sa femme, et en tout cas pour accéder à un monde auquel il n'a pas vraiment accès, se met à se passionner pour l'art contemporain, et, ouais. l'art, et l'art en général.
Et il repère des toiles dormantes, c'est son secret, des toiles de maîtres, mais qui ne sont pas repérées, qui sont chez les particuliers, il les fait expertiser, il les revend évidemment beaucoup plus cher, sauf que là, c'était des faux peints par Tony Tétrault, qui est un Américain et qui dit ceci, j'ai peint plus de Chagall que Chagall lui-même. On adore cette phrase.
Ça, c'est génial.
Voilà, alors ce qui est génial dans cette histoire, c'est que c'est le faussaire lui-même qui a prévenu la presse.
Oui, c'est le faussaire lui-même, parce que le faussaire, en fait, se rend compte que les toiles qui sont exposées et qu'on fait passer pour des vraies, en fait, sont
alors que c'était
siennes.
Des faux très grossiers, dit-il.
Très grossiers. Il dit, n'importe qui pourrait reconnaître très facilement. Mais voilà, ce qui est intéressant dans cette histoire, qui est une histoire racontée par un très grand journaliste qui s'appelle Marc Sille, qui a dévoilé beaucoup d'affaires de faux, de corruption, etc. C'est que finalement ça met en lumière à la fois les enjeux dans des cercles un peu de pouvoir, d'argent, etc. Et aussi surtout la façon dont l'art contemporain et l'art en général est un marché qui ressemble beaucoup à une bulle très très spéculative, et dans laquelle des faussaires, des arnaqueurs rentrent et se font énormément d'argent sur le dos de d'autres personnalités. Et là en l'occurrence sur le dos du prince Charles.
Les 17 tableaux prêtés au prince Charles ont été décrochés, bien sûr, mais pas rendus à James Stunt. Nul ne sait où ils sont à présent. Le prince, le flambeur et le faussaire, c'est à lire dans le magazine Vanity Fair. Merci beaucoup, Joseph Goon. Et à vendredi prochain, on parle des grandes femmes de l'histoire dans un instant. Voilà qui donne la banane. Jim Murple Memorial sur France Inter.
France Inter, l'été comme jamais.
Se faire traiter de virago en 2020, c'est pas un compliment, même si ce mot est assez peu usité. Aude Gonigoubert, c'est le titre de votre chaîne YouTube, également celui de votre livre, coécrit avec Adrien Rebaudot, V comme virago aux éditions First. qu'est-ce qu'une virago, Aude-Gonnet Goubert?
Alors aujourd'hui, quand on ouvre le dictionnaire, une virago, c'est une femme aux allures masculines, une femme bourrue.
Donc ça n'est pas
très
un compliment.
Péjoratif. Sauf que la définition vraiment originelle du mot est une femme forte, courageuse, une guerrière, une héroïne. Et cette définition date du 1er siècle avant Jésus-Christ.
Comment expliquez-vous ce glissement sémantique?
Étonnant. Mmh. Étonnant glissement, comme au 19e siècle, beaucoup de choses ont glissé, beaucoup de mots ont disparu du dictionnaire. Et le 19e siècle n'ayant pas fait que du bien aux femmes. Et donc j'ai eu envie de rétablir ce mot dans sa définition positive.
Alors V comme virago, je le disais, c'est une chaîne YouTube dans laquelle vous dressez des portraits de femmes. Voici un exemple.
Le 19 avril 1967, Catherine Switzer a 20 ans et elle révolutionne le monde du marathon.
Oula, doucement, non, ce jour-là, j'ai rien révolutionné du tout.
Alors que le marathon de Boston est interdit aux femmes, elle va quand même s'y inscrire en utilisant les initiales de ses prénoms, K.V. Switzer.
Ouais, parce qu'à l'époque, on disait que pour une femme, courir autant faisait tomber l'utérus ou pousser les poils sur la poitrine. Mais en fait, non, pas du tout.
Armée de son courage, elle se place au départ, concentrée, échauffée.
Au milieu d'une foule, on disparaît facilement. Enfin, en théorie.
En théorie seulement. Puisqu'après quelques minutes de course, Jock Semple, un des organisateurs, la repère et va tout faire pour l'empêcher de courir.
Instinctivement, j'ai tourné la tête. Et je me suis retrouvée nez à nez avec le visage le plus vicieux que j'ai jamais vu. Un homme grand, énorme, édenté, résolu à bondir. Et avant que je puisse réagir, il a attrapé mon épaule et il m'a tiré en arrière en criant « Dégage de ma course et rends-moi ce numéro !»
Et elle a pourtant terminé cette course, Catherine Switzer, Aude-Gonnet Goubert.
Elle l'a terminée à tout prix parce qu'elle s'est dit « Si je ne termine pas, ça donnera de l'eau au moulin des gens qui pensent que les femmes ne peuvent pas courir de marathon. »
Qu'est-ce qui vous plaît dans le parcours de cette femme en particulier dont tout le monde a oublié le nom?
Mais alors moi, c'est le point commun entre toutes mes viragos. Je dis mes viragos.
Bah oui, c'est les vôtres. Allez.
Je suis complètement devenue leur mère. Non, c'est qu'elles ont toutes transcendé une condition sociale, une culture, une religion, une époque. Et donc elles ont transcendé ces choses-là pour faire des choses extraordinaires. Mmh. Et donc je me dis qu'il y a la notion de combat, il y a la notion de persévérance, de lutte, et c'est ça qui me plaît. Et en plus, à travers la pratique sportive, je pense que c'est très éloquent.
Mmh. Alors la question est bien trop vaste et il faut pourtant la poser. Pourquoi les femmes sont-elles invisibles dans l'histoire telle qu'on la raconte? Ophélie Latil, je rappelle que vous êtes la fondatrice du collectif Georgette Sand.
Alors nous, quand on a commencé à travailler sur l'invisibilisation des femmes dans l'histoire, on s'est rendu compte que les femmes disparaissaient à toutes les époques et sur tous les continents pour toujours les mêmes raisons. En fait, il y a toute une typologie qui est un peu malheureusement la même, où il y a une domination qui s'installe à un moment et qui devient presque une habitude et qu'on qualifierait souvent de naturelle quand on n'est pas en train de travailler sur les droits des femmes et qui donne l'impression que c'est normal. Sauf qu'en fait, si vous analysez vraiment comment les femmes disparaissent, c'est toujours à cause de l'État, à cause de l'Église, à cause de la famille, à cause du conjoint. Parce qu'on ne conserve pas les archives, parce que les disciples n'existent pas, ne sont pas formés, les femmes ne forment pas de disciples. Et en fait, vous retrouvez en fait ces schémas-là systématiquement dans l'histoire, avec évidemment l'État qui vous empêche en fait d'accéder à la médecine, l'Église qui vous empêche de pratiquer un instrument.
Il faut peut-être s'arrêter sur ce mot disciple. Pourquoi c'est important pour une personnalité d'avoir des disciples?
Parce que c'est la mémoire, en mm-hmm. fait. C'est tout simplement, aujourd'hui, pourquoi il n'y a pas de femmes dans les noms de rue, dans les manuels scolaires? C'est parce qu'en fait, il y a un moment, les femmes sont partout, mais on ne pense pas immédiatement, en fait, à les mettre. Parce que qui raconte l'histoire, qui raconte le récit, ce sont les vainqueurs. Et les vainqueurs, ils sont blancs, ils sont masculins. Et aujourd'hui, dans un système républicain qui a été fondé sur un modèle où les hommes étaient là, alors que les femmes étaient là quand ils ont commencé à écrire ce récit, en fait, on enlève les femmes. Parce qu'en fait, c'est plus simple.
Pourquoi n'ont-elles pas de disciples?
Elles n'ont pas parce qu'en fait elles prennent tellement de temps à essayer de combattre en fait le système, d'être en
place,
d'être prise au sérieux, qu'en fait elles n'ont pas le temps en fait de former des disciples et donc la mémoire ne va pas être transmise derrière. On va pas faire vivre l'histoire comme on a pu faire vivre. Il y a beaucoup d'artistes, notamment tout à l'heure vous citiez Monet, Degas, mais en fait là, beaucoup d'artistes féminines comme par exemple Marie Laurencin n'ont pas en fait aujourd'hui la même cote sur le marché parce qu'en fait derrière elles n'ont pas eu d'enfants parce qu'elles ont eu tellement de temps à être visibles, connues, reconnues sur le marché, que du coup elles n'ont pas eu le temps aussi d'avoir des enfants et de transmettre leur art à des disciples.
Marie Laurencin est presque un contre-exemple parce qu'elle est citée dans une chanson de Joe Dassin et à ce titre-là, elle est un peu connue.
C'est une héroïne du karaoké, mais pas forcément du marché de l'art.
Pas forcément de l'histoire de l'art. Votre livre, Ni vu ni connu, est préfacé par Michel Perrault, grande historienne. En général, écrit-elle, il s'agit moins de conspiration consistant à cacher délibérément la découverte, l'antériorité ou le rôle d'une femme dans un processus d'innovation ou de pouvoir que d'une omission, d'une négligence tellement coutumière qu'elle devient presque systématique. Mmh. Autrement dit, Ophélie Latil, il n'y a pas de complot.
Non, c'est pas vraiment un complot. Mmh. C'est juste qu'en fait, il y a un moment, votre regard va s'attacher à ce que vous reconnaissez. Si vous prenez par exemple Jane Austen, Orgueil et Préjugés, qui est un roman assez classique, en fait, vous ne voyez pas jamais les domestiques. Et il y a quelqu'un qui s'est amusé à réécrire ce roman, en fait, du côté des domestiques. Et vous vous rendez compte qu'ils sont partout. Sauf qu'en fait, il y a un coup, vous vous dites, mais c'est vrai. En fait, si je reprends ce roman de la littérature classique, les domestiques sont partout. Et en fait, si vous avez une approche sociale, d'un coup, vous vous rendez compte qu'elles sont partout. Et si vous prenez l'histoire du monde, les femmes étaient partout. Et en fait, contrairement à ce qu'on a voulu nous raconter, les femmes étaient présentes, mais le récit n'est pas le bon. C'est-à-dire que les rares femmes dont vous allez entendre parler dans les manuels scolaires sont des femmes qui sont d'odieuses femmes sanguinaires et ambitieuses et incestueuses. Bah, Aliénor d'Aquitaine, par exemple, pour ne citer qu'elle. Et moi, je suis déjà passée à une émission de radio où j'ai été face à quelqu'un d'extrêmement virulent, un virago masculin, a priori, qui m'a expliqué que c'était sa faute, la guerre de 100 ans, qu'elle avait couché avec Saladin, tout ça. Sauf qu'en fait, c'est absolument pas vrai. Si vous commencez à croire les sources, tout ça. Ce qu'on lui reproche, c'est de ne pas avoir laissé à la couronne de France son royaume d'Aquitaine, qui a permis à la couronne d'Angleterre ensuite de s'étendre des Pyrénées à l'Écosse. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on a fait à l'époque? On l'a discrédité en écrivant, les conseillers des rois à l'époque ont rédigé des tas de choses pour la discréditer, en disant que, voilà, qu'elle avait une vie sexuelle, qu'elle n'était que capable de gérer des arts, qu'en fait, elle parlait trop fort, qu'elle avait trop de décolleté.
Des arguments très forts. Hein.
Gros, voilà. Et toutes les décisions ratées du politicien en chef, donc le roi de France à l'époque lui ont été attribués. Et ce qui est rigolo, c'est qu'en fait ces livres-là se transmettaient de génération en génération, et on a pu se rendre compte qu'au XXe siècle, fin du XXe siècle, début XXe siècle, XXIe siècle, que en fait en testant les écrits du papier, on se rendait compte que c'était les proches conseillers des rois qui disaient ça, et que donc quel était le but? C'était de discréditer l'apport de cette femme qui a été reine et qui a écrit 80 chars de droit maritime. Sauf que ça, on préfère l'oublier.
Alors on parle de visibilité des femmes ce matin, Mam Fatou Niang. Si on s'intéresse plus précisément à la visibilité des femmes non blanches, là c'est carrément la double peine.
Exactement, la double peine. Et moi je vais rebondir sur une chose qui vient d'être dite, c'est cette notion de complot. Donc pour moi c'est vrai qu'on n'est pas dans un complot, mais on est dans ce que j'appelle une OPA. Alors, vraiment un braquage, un hold-up sur la constitution de la communauté nationale et les avatars de cette communauté, qui peuvent être soit l'histoire, la manière dont l'histoire est écrite, représentée, mais aussi la manière dont cette histoire se lit dans notre espace public, que ce soit dans les statues ou les noms de rue. Et j'appelle ça vraiment une OPA, parce qu'on arrive à une situation où une histoire, un récit, des personnes sont mythifiées et passent pour naturelle une situation qui a été absolument construite du point de vue et de l'homme, parce qu'on le voit bien dans l'histoire lorsqu'on parle. Moi, je travaille beaucoup sur ces questions de discrimination, et lorsqu'on s'attaque aux discriminations, on a une expression qui est extrêmement intéressante, qui vient d'un livre coédité par Barbara Smith et Jenny Hall, où on dit les hommes sont noirs et les femmes sont blanches. Lorsqu'on parle de discrimination, donc c'est-à-dire lorsqu'on commence à s'attaquer à ces questions, on va voir la discrimination de la manière dont elle touche les hommes noirs. Puis, lorsqu'on va s'attaquer au genre, ce sera les discriminations sur les femmes blanches. Et donc, on se rend compte qu'à l'intersection de ces discriminations, ben les femmes et les femmes issues des minorités, les femmes noires ou les femmes maghrébines, pour parler de la France, sont complètement mises à côté.
Alors, l'invisibilisation, ça pose évidemment la question des modèles que l'on propose aux enfants. On va écouter un extrait de votre documentaire, Mam Fatou Niang, Marianne Noire.
Ah, si je pouvais me parler à 12 ans, je me dirais continue à rêver, va au bout de tes rêves, continue à être fier de toi et dis aux gens comment t'aimes ta couleur de peau, en fait. Essaye de ne pas être en colère. Essaye de partir du fait que les gens sont ignorants et parle-leur de toi, en fait. Et ceux qui peuvent pas entendre, ben, laisse-les. Te justifie pas, en fait. Et puis t'auras un avenir de ouf. T'inquiète pas, t'auras un avenir de ouf. Voilà.
Le rire contagieux de la chorégraphe Bintou Dembélé dans votre film Mam Fatou Niang. Si vous me permettez de poser la question ainsi, après tout, pourquoi c'est si grave que les jeunes filles noires aujourd'hui n'aient pas de modèle sous les yeux ?
Alors, on vit aujourd'hui en France dans un climat républicain qui fonctionne sur un modèle unitarien, le modèle universaliste de la citoyenneté. Et lorsqu'on prend par exemple des apôtres, des architectes de ce modèle tel que Renan, qui nous disent que l'identité française ne se construit ni sur le sang, ni sur la religion, mais elle se construit sur l'idée d'un groupe formé par un passé, un très grand passé, bien sûr fondé par des grands hommes, et qui trouve dans ce passé l'énergie de faire république, de faire un nom commun, et dans ce présent construit ensemble, dans cette contemporanéité, trouve l'énergie de construire, de rêver un futur. Mais le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que lorsque je regarde une histoire où les personnes qui me ressemblent sont effacées, comment est-ce que le groupe national ne me voit pas dans le rétroviseur, comment est-ce que je peux et me projeter comme étant faisant partie de ce groupe national et être accepté par mes concitoyens comme étant partie de ce groupe. Donc lorsqu'on parle d'un pays comme la France où cette idée de l'identité nationale et surtout l'idée du passé et du poids du passé, l'idée du poids de l'histoire, l'idée que cette histoire peut avoir dans la constitution du groupe présent, et je trouve on ne parle même pas de réécriture ou de relecture, c'est vraiment là, on est dans la lecture de l'histoire et surtout dans le fait de pouvoir révéler des pans de ces histoires qui sont cachées et qui permettent de montrer les origines de notre communauté nationale.
A-t-on besoin de modèles qui nous ressemblent? C'est toute la question. Après tout, pourquoi les petites filles devraient-elles avoir des femmes pour modèles? On peut très bien rêver de devenir Thomas Pesquet, même si on a une petite fille, Audgony Goubert.
Bien sûr, sauf qu'en fait, c'est un conditionnement systémique. À partir du moment où on ne nous montre pas que des femmes sont au pouvoir, aux commandes, comment peut-on s'imaginer pouvoir le faire soi-même? Il faut de la représentation. Aujourd'hui, il y a une sous-représentation des femmes, que ce soit dans les médias, en politique, dans la fiction même. Par exemple, et on sait par exemple que dans les médias, il y a 24% de femmes qui vont parler en tant qu'experte.
Aujourd'hui, on fait grimper les statistiques. Hein.
Alors, on les fait grimper, sauf qu'elles sont redescendues pendant le Covid, typiquement, alors qu'on sait que les femmes étaient en première ligne. On sait que ce sont les femmes qui ont vraiment pris à bras le corps cette crise. Et par contre, sur les plateaux de télé, dans les radios, etc., ce sont toujours les hommes qu'on entend. Et en fait, c'est pas une guerre. En fait, c'est juste une inégalité qui fait que la société ne peut pas fonctionner intrinsèquement. Voilà. C'est une société inégalitaire ne peut pas fonctionner. C'est une société malade. Donc, on veut juste rétablir un équilibre.
Alors, je disais, ce qui est intéressant également, c'est de fabriquer ici même une petite galerie de portraits des femmes qui mériteraient qu'on ait retenu leur nom. Est-ce que vous avez un exemple à nous donner, un personnage qui vous tient à cœur, Audgony Goubert?
Eh bien,
il y en a mille.
Il y en a mille, évidemment. Mais je vais penser à Wangari Maathai, qui a créé le Green Belt Movement et qui est le plus grand mouvement de reforestation de l'Afrique, qui a eu un prix Nobel de la paix pour ça et qui a mis 100 000 femmes au travail à travers la reforestation et la création de serres et parce qu'elle partait du principe que, enfin, c'est évident que l'autonomie financière permet l'épanouissement et la liberté des femmes, et donc c'était toute sa démarche. Voilà.
On le note et on le retient. Wangari Maathai. Vous dites cependant, Ophélie Latil, que c'est un peu dangereux cette démarche de distinguer des femmes exceptionnelles.
Oui, tout à fait, parce que alors et à un moment aussi, on peut pas toutes être pionnières.
On a le droit à la banalité.
On a le droit à la banalité. Donc c'est important de le côté modèle féminin. Le risque après, c'est de dire regardez, j'ai été exceptionnelle, faites comme moi. Et c'est un peu le risque d'une forme de féminisme aujourd'hui, de dire regardez, moi j'y suis arrivée, donc je suis l'arbre qui cache la forêt, derrière moi il y a plein de femmes qui n'y arrivent pas, qui n'ont pas tendu la main et qui n'ont pas forcément la même capacité, la même énergie que moi, tant pis. Nous on a voulu à Georgette Sand vraiment valoriser la diversité des modèles, on a pris des femmes qui ont raté, qui ont échoué, qui se sont retrouvées, qui se sont pris la famille, l'église, le conjoint dans la figure et sinon, qui ont dit ok tant pis je lâche prise.
Un exemple de gros ratage très rapidement
Nanière de Mozart, la sœur de Mozart, ouais, qui était prodige comme son frère quand même et qui n'a pas eu le droit de pratiquer le violon et l'orgue à partir de l'âge de 14 ans, qui a été mariée à un vieux, et donc toute la production a été brûlée par le père. Et aujourd'hui, quand on parle de Mozart, on ne parle jamais de sa sœur.
Nannerle Mozart.
Nannerle, Anna Maria Mozart.
Voilà, et on peut écouter ce que ça donne, le travail de Nannerle Mozart?
Non, on ne peut pas. En revanche, vous pouvez écouter le travail.
Pourquoi on ne peut pas?
Parce que tout a été brûlé. Donc il n'y a pas d'archives. Par contre, vous pouvez
donc, l'argument de dire, évidemment, c'est moins bien que Wolfgang,
Oui, par contre, des musiciennes, il y en a plein. Aujourd'hui, elles commencent à être jouées. Et donc vous avez, par exemple Fanny Mendelssohn, qui est très importante. Vous avez aussi la première compositrice d'opéra en France, enfin, qui n'est pas la première, pardon, une grande compositrice d'opéra qui a mis en place Notre-Dame de Paris avant la comédie musicale, donc vraiment avec un livret écrit par Victor Hugo lui-même et conduit par Berlioz.
Son nom ?
Louise Bertin. Et accessoirement, la pauvre, comme elle était femme et handicapée, trois jours après la première, elle s'est fait huer. On a dit que c'était Berlioz qui avait composé l'opéra et elle est rentrée chez elle en pleurant.
Allez, on poursuit cette discussion dans un instant. Mais là, il est 10h30 et c'est l'heure de notre rendez-vous avec le répondeur de France Inter. Les auditeurs et auditrices réagissent à nos programmes. Continuez, s'il vous plaît, à nous inonder de messages.
Le répondeur d'Inter, 01 56 40 68 68.
C'est Rita de Paris. Et je voulais juste dire merci au cinéma de Paris et particulièrement au cinéma indépendant qui font un travail incroyable pour relancer toutes les grandes salles et même les plus petites, particulièrement à Paris, et qui permettent à ce qu'on puisse voir de merveilleux films et parfois de moins bons, mais de manière générale qu'on ait le choix d'aller voir des films super au cinéma. Et voilà, c'était juste pour dire merci au cinéma, parce que grâce à eux, on voyage un petit peu plus, même si pour l'instant, on est toujours un peu confiné quand même.
Bonjour, Anne de Quimper, je suis infirmière et sur ma fiche de paye de juin, j'ai eu la surprise, enfin qui n'est pas une surprise, d'avoir une prime de 500 €, comme la plupart de mes collègues qui ne travaillaient pas en service Covid. Simplement, cette prime est imposable. On nous avait promis que cette prime n'aurait pas été imposable. Voilà, merci, bonne journée.
Bonjour, je m'appelle Fanfan, j'habite Besançon. Je vous remercie déjà en premier d'avoir été là pendant tout le confinement où j'étais confinée dans une caravane sur un terrain. Mais quand même, France Inter, faut arrêter votre culture parisienne. À Besançon est né le Cirque Plume. À Besançon est né plein de compagnies de spectacles de rue, plein de gens qui sont nés là, qui diffusent, qui travaillent sur toute la France. Et vous, vous êtes là avec votre panache de Parisiens. La France, c'est pas Paris.
01 56 40 68 68.
Et merci à votre panache de bisontine. Je redonne le numéro une dernière fois. 01 56 40 68 68. Voici Pomme sur France Inter.
Une rivière.
La Lumière, c'était Pomme sur France Inter. L'été comme jamais, c'est une équipe en or. Caroline Pomès, Margot Page, Nicolas Beauve et Mao de Butler à la préparation. Anne-Cécile Perrin à la réalisation. Sans oublier notre stagiaire, Alexandre Lejeune.
France Inter, l'été comme jamais.
Et on parle ce matin des raisons pour lesquelles les femmes sont aussi peu présentes dans l'histoire telle qu'elle nous est racontée. J'aimerais qu'on en vienne à Alice Guy. C'est un nom encore assez peu connu, même si voilà, ces temps-ci, ça commence à revenir, notamment grâce à un documentaire qui est à l'affiche en ce moment. Voici un extrait de votre chaîne YouTube, Haute Gonie Goubert.
À 22 ans, elle se présente comme sténodactylographe auprès de Léon Gaumont.
Alors qu'il lui fait passer un entretien d'embauche, il lui dit qu'elle est peut-être un peu jeune pour assumer le poste.
Je lui ai répondu que ça me passerait.
La voilà donc secrétaire de Gaumont et ravie d'exercer dans un monde où le cinéma voit le jour.
Elle assiste aux toutes premières représentations cinématographiques des Frères Lumière.
Il tendait un drap blanc au mur et projetait des scènes de rue, des trains qui entrent en gare, des choses du quotidien.
Mais Alice cogite. En tant que fille de libraire, baignée dans les histoires, elle pense qu'il faudrait en écrire une pour la filmer ensuite.
C'est aujourd'hui une évidence pour la plupart des réalisateurs et l'idée devait flotter dans l'air de l'époque. Mais la toute première à penser au scénario cinématographique, c'est Alice Guy.
J'ai demandé à Monsieur Gaumont si je pouvais me hasarder à l'exercice, et il acquiesça, à condition que son courrier n'en souffre pas.
Et c'est comme ça qu'en 1896 est né le premier film de fiction au monde, La Fée aux Choux, dont elle était à la fois autrice et réalisatrice.
Il faut préciser que Haute Gonie Goubert, dans sa vidéo, se déguise beaucoup, elle joue tous les rôles, et vous faites très bien l'accent un petit peu bourgeois.
Un petit peu poche.
Voilà, d'Alice Guy. On est au téléphone à présent avec Véronique Lebris, bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes bienvenue, vous êtes journaliste et c'est vous qui avez fondé il y a 2 ans le prix Alice Guy qui récompense chaque année un film réalisé par une femme. Pourquoi la vie, le parcours de cette femme vous intéresse-t-elle ?
Parce qu'elle était à l'époque, à l'époque il y a 2 ans, donc on en parlait déjà beaucoup moins qu'aujourd'hui.
Encore moins.
Et c'était très injuste parce qu'elle a été fondamentale dans l'histoire du cinéma, donc il était question de... Enfin, mon propos était d'essayer de la sortir de l'invisibilité, justement, de la remettre sur le devant de la scène, le plus possible, justement, par un prix qui permettait d'avoir une répétition comme ça chaque année, et surtout de montrer ses films, parce que personne ne les connaît, en fait. Personne ne les connaissait. Donc voilà, l'idée, c'était ça, évidemment... en prévenant d'une certaine façon, en alertant, disons, les réalisatrices d'aujourd'hui que c'était pas du tout une question de talent, évidemment. La preuve en était les films, mais qu'il fallait savoir se mobiliser, disons, pour faire parler de soi, revendiquer d'être dans des palmarès, d'avoir des soirées spéciales autour de soi, pour que l'œuvre, même aujourd'hui, marque en fait l'œuvre des femmes, puisque c'est beaucoup plus difficile pour elles.
Catherine Corsini, lauréate du prix Alice Guy 2019 pour son film Un amour impossible, et cette année, ça se passe à Marseille, hein, Véronique Lebris.
Non, alors à Marseille, c'est juste une déclinaison sur un court-métrage.
D'accord.
Mais la remise du prix Alice Guy, donc cette année, ce sera Mounia Medour pour Papicha, puisqu'il y a un jury qui l'a remis, et ce sera début septembre.
D'accord.
À Paris, au Max Linder à Paris.
Très bien. C'est assez malin finalement de donner son nom à un prix pour qu'on le retienne, parce qu'après tout, pas grand monde ne sait qui sont les frères Goncourt, écrivains français du 19e siècle, et pourtant tout le monde connaît le prix Goncourt.
Oui, d'ailleurs, c'est en regardant la remise du prix Goncourt que je me suis dit que je cherchais quelque chose à faire autour des femmes, justement, pour les sortir de l'invisibilité, comme ça. Et en regardant le prix Goncourt, j'ai eu cette réflexion-là et je me suis dit, en fait, Alice Guy, faut la remettre sur le devant de la scène. Au début, tout le monde va avoir un peu de mal avec le prix. Puis peut-être que dans 30 ans, dans 40 ans, moi, je serai déjà morte. Mais en même temps, peut-être qu'on en entendra parler encore, en sachant, en fait, son nom résonnera d'une certaine façon, sera familier, deviendra familier. Et j'ai réfléchi en préparant un peu votre émission et je me suis dit, mais en fait, je ne connais aucun autre prix en France qui porte le nom d'une femme, ce qui est quand même un peu troublant.
Attends, je me tourne vers Ophélie Le Thil. Non, elle me met un regard effrayé, il n'y en a pas d'autres. Les femmes représentent 20 à 25% des cinéastes en France. Documentaire en salle en ce moment, je le disais, Binatural, l'histoire cachée d'Alice Guy, avec Jodie Foster pour la voix off. C'est un documentaire américain qui s'intéresse à cette cinéaste française, Véronique Lebris. Vous l'avez vu, j'imagine?
Oui, bien sûr. D'ailleurs, le prix est un peu à l'origine de la sortie de ce film, parce que c'est une petite fille de 7 ans. C'est une histoire assez adorable. Une petite fille de 7 ans qui a assisté à la soirée où était sacrée Catherine Corsini à Un amour impossible l'an dernier, et qui a donc assisté à cette première partie où j'explique la vie d'Alice Guy, où je raconte comment elle a disparu, et en montrant ses films, et ça lui a beaucoup plu. Sur le chemin du retour, elle a tanné ses parents, qui sont distributeurs de films de patrimoine, en disant, mais vous, il faut vous bouger, là, il faut la faire connaître. lettres. Et donc, ils ont eu l'idée de sortir ce film et des programmes. Il y a des programmes qui accompagnent. On voit les films d'Alice Guy, de sa période française et de sa période américaine, parce qu'elle a une très grande carrière aux États-Unis aussi.
Voilà, ça tombe bien. Il faut aller au cinéma pour soutenir cette industrie qui a beaucoup souffert de la crise sanitaire. Be Natural, l'histoire cachée d'Alice Guy, c'est en salle en ce moment. Merci beaucoup, Véronique Lebris.
Oui, merci à vous et merci pour le sujet de cette émission capitale.
Et à bientôt sur France Inter. On parle donc d'invisibilité des femmes. J'aimerais qu'on en vienne au syndrome de la Schtroumpfette. Est-ce que vous connaissez ce syndrome autour de la table? Alors, on parle bien sûr des Schtroumpfs, BD de Peyot. Il y a un Schtroumpf costaud, un Schtroumpf peureux, un Schtroumpf coquet, un Schtroumpf farceur, et il y a une seule Schtroumpfette. Sa caractéristique dans la bande dessinée, c'est uniquement d'être une femme, Ophélie Latil.
Oui, c'est un peu comme la Castafiore dans Tintin, le franco-belge, enfin la bande dessinée franco-belge, c'est beaucoup d'hommes qui pensent, qui réfléchissent, qui agissent, qui sont méchants, qui sont gentils. Les femmes sont la femme, c'est un peu comme un parfum.
C'est une qualité, quoi.
C'est une marque, en fait. On est la femme unique et essentielle. En fait, on a une sorte d'essence. Quand on arrive, on a une brise derrière, les cheveux qui bougent, et on n'est pas du tout reconnu comme une grande diversité. Et ça, c'est quelque chose de très très français, en fait, qui est vraiment très propre aussi à la culture judéo-chrétienne. Là, on va revenir vraiment sur le côté Jardin d'Éden, vous savez, vous avez le serpent, la pomme, Adam. Et alors, quand même, c'est bizarre parce qu'il y a quand même trois personnes, un serpent, une pomme, et enfin, un serpent, Ève et Adam. Et à la fin, il n'y a que Ève sur qui doit pécher le péché originel retombe. Parce que, concrètement, donc, la femme, en fait, dès qu'elle sort de cet état de sidération permanente où la femme regarde Adam avec amour, en fait, dès qu'elle sort de cet état-là de méconnaissance et d'ignorance, elle devient horrible et sanguinaire. Et c'est quelque chose que vous n'aurez pas, par exemple, dans la culture du manga. Parce qu'en fait, au Japon, aujourd'hui, vous avez plein de femmes guerrières et leur histoire est racontée et en fait, elles ont pris les armes, elles ont dirigé des armées. Enfin, je prends par exemple l'exemple de Tomoe Gozen qui était une stratège militaire et qui avait une armée de 10 000 personnes et qui a fait ça pour unifier le pays avec son amour. Et en fait, la dévotion, la piété filiale, l'amour de la nation, là-bas, ce sont des qualités qui sont valorisées et donc du coup, qui sont présentes chez les femmes quand on en parle.
Et le syndrome de la Schtroumpfette, il y a un lien à faire avec ce phénomène d'invisibilisation parce qu'on retient dans chaque catégorie, si je puis dire, une seule femme. Une femme scientifique, on pense évidemment
à Marie Curie.
Une femme dans l'histoire, on pense évidemment à Jeanne d'Arc. Il suffit d'une seule femme, Fatou Niang.
Ben, il suffit d'une seule femme et c'est quelque chose qui a été moteur dans la réalisation de mon film Marianne Noire, Marianne avec un S, donc qui est un documentaire sur les parcours de 7 femmes françaises ordinaires. Et donc on revient un peu sur cette peinture de l'ordinaire parce que ce droit à la banalité exactement qui est quelque chose de central dans mon art mais aussi dans ma recherche. Lorsqu'on parle de personnes qui sont souvent invisibilisées. Pas silencieuse, silencié, et dont les seules plages de visibilité dans l'espace national sont dans l'hyper. Lorsqu'on parle par exemple des corps noirs, que ce soit les hommes ou les femmes, des représentations assez problématiques, donc la prostituée, la fille voilée victime d'un régime patriarcal familial. Donc on est invisible de l'espace public et seulement visible dans des catégories problématiques. Et pour moi, une chose qui est extrêmement essentielle pour montrer rentrer dans l'intimité de ces femmes, c'était de les montrer dans leur quotidien. Donc j'ai pensé faire le portrait comme ça de 7 personnes afro-françaises, 7 femmes ordinaires, donc Maboula Soumaoro, chercheur universitaire, Bintou Dembélé, etc.
Voilà, il y en a 7 effectivement, et ce film est disponible en VOD.
Et donc de montrer cette question de la pluralité, parce que j'étais souvent interrogée, donc les gens me demandaient, voilà, vous avez fait un film sur la femme noire, et la femme noire n'existe pas. Donc, vous vraiment montrer la diversité des expériences, la diversité des sensibilités, tout en montrant que, et ça c'est une chose qui est extrêmement intéressante lorsqu'on parle aujourd'hui des questions de race, etc., de montrer qu'au-delà aussi de cette diversité, on tombait sur une expérience qui pouvait être commune et qui était l'expérience de raciale d'être noire aujourd'hui en France.
Alors on assume la contradiction ce matin de ce droit à la banalité d'un côté. Absolument. Et aussi de cette volonté de faire retenir des noms de femmes qui méritent qu'on retienne leur nom. Moi j'aimerais qu'on parle de Rosalind Franklin. C'est elle qui a découvert la forme hélicoïdale de l'ADN et après tout elle mérite autant que Marie Curie qu'on retienne son nom. Aude Guenée-Goubert, un autre exemple peut-être de femme dont vous voudriez
qu'on
parle plus.
Alors qui en plus qui correspond un peu à la période dans laquelle on vit actuellement, Vandana
Shiva, mm-hmm. qui a théorisé l'écoféminisme, part du principe que l'homme a traité la nature de la même façon qu'il a traité les femmes, mm-hmm. et que donc on vit dans ce même système d'oppression. On a utilisé la nature et on l'a maltraitée de la même façon qu'on a utilisé et pas très bien traité les femmes. Donc je trouve que la notion d'écoféminisme est très intéressante.
Ophélie Latil, vous intervenez beaucoup, je crois, avec le collectif Georgette Sand en milieu scolaire, en tout cas c'était avant le confinement. Comment réagissent en général les élèves quand vous intervenez pour parler de l'invisibilisation?
Alors très bien, c'est-à-dire que ça nous permet de casser des stéréotypes assez évidents sur, par exemple, pourquoi les femmes n'ont pas le droit de participer aux courses automobiles, par exemple, ce genre de choses. Et ils adorent les histoires où on parle justement des reines de sang. Et en fait, ils adorent, ah oui, mais la fille, elle s'est baignée dans des bains de sang. Et on dit, mais c'était vrai? Ah non, on sent qu'ils sont un peu déçus parce que ça fait partie du récit. Et c'est très, on voit aussi, en fait, ça nous permet de voir, on est allé partout en France, on est allé dans des régions très rurales, on est allé en banlieue, on est allé dans des zones publiques, dans des écoles publiques privées. On voit la diversité déjà des élèves, en fait. C'est pas du tout la même chose. Mais ce qu'on voit quand même beaucoup, c'est que les filles, elles sont derrière dans la classe. Et souvent, elles sont là en train de murmurer comme ça quand on pose la question. Est-ce que vous savez qui a fait telle chose ou qui a inventé telle chose? Les garçons sont devant, ils crient, n'importe quoi. Mmh. Et les filles sont derrière, elles ont la réponse, elles se rentrent la tête dans les épaules et elles n'osent pas le dire. Et
j'imagine que certains auditeurs ou auditrices sont en train de penser que vous êtes un peu caricaturale.
Je suis un peu caricaturale, en effet, parce que je trouve que c'est dommage, en fait. Aujourd'hui, on a beaucoup parlé de la sociologie dans les écoles. Moi, je suis intervenue beaucoup dans des écoles parce qu'il y avait des problèmes de violence. C'est-à-dire que, par exemple, les élèves, les garçons n'aimaient pas parce que l'équipe régionale de basket de leur lycée, c'est les filles qui gagnent et eux, ils gagnent pas. Donc, du coup, il y avait des problèmes de violence. Il y avait des violences des garçons sur les petites filles et les filles qui disaient « Mais c'est normal que ce garçon me frappe dans les toilettes, c'est parce que après tout, il m'aime. » Donc, il y avait quand même déjà des schémas stéréotypants de violence qui associaient l'amour et la violence. Et en fait, en leur montrant qu'une femme peut être puissante dans sa diversité, on montre à ces filles-là en fait qu'une alternative est possible, qu'être la femme l'égérie qu'un homme regarde.
En fait. Cette porte d'entrée des femmes célèbres, des femmes dans l'histoire, c'est une manière de parler de ces sujets très concernants et très concrets pour les enfants à l'école. Une vérité à rétablir, il existe des prix qui portent des noms de femmes, on me le signale à l'instant, merci à Margot Page, le prix Romy Schneider et le prix Simone Veil. Et Simone de Beauvoir, ça en fait trois. Prix Simone de Beauvoir aussi. Il est 10h49 sur France Inter.
Yeah. Menchita, c'était Andrea Laszlo de Simone sur France Inter. Merci aux auditeurs et auditrices qui nous écrivent à la page de L'été comme jamais sur le site de France Inter. Sylvie nous écrit ceci. Mon mari et moi avons appelé notre fille Colette il y a bientôt 24 ans et c'est un peu idiot, dit-elle, mais quand je viens à Paris, je vais, si je le peux, voir la plaque apposée Place Colette tout près du musée du Louvre. Notre fille, qui a eu un peu de mal à aimer son prénom qualifié de désuet à l'adolescence, a eu le plaisir de s'entendre dire à l'université de Varsovie où elle effectuait une année Erasmus, quel magnifique prénom, aussi beau que l'œuvre de la femme qui a donné son nom à une très jolie place à Paris. Merci Sylvie pour ce témoignage. Et merci beaucoup à mes trois invités. V comme Virago, c'est donc une chaîne YouTube, des vidéos disponibles gratuitement sur Internet et c'est aussi un livre aux éditions First signé Aude Gonny-Goubert. Merci à vous. Ni vu ni connu, le livre du collectif Georgette Sand que vous avez cofondé, Ophélie Latil, est disponible en livre de poche chez Pocket. Et je recommande également Marianne Noire, le documentaire de Mam Fatou Niang. On peut aussi parler de la BD, bien sûr, Les Culottés de Pénélope Bagieux, bande dessinée en deux tomes chez Gallimard. Bonne journée à toutes les trois.
Merci Dorothée.
Merci beaucoup. On termine par un plateau ciné, comme tous les jours. Laurent Delmas nous conseille un film que vous pouvez louer pour une bouchée de pain sur le site universciné.com. Film français aujourd'hui. Je ne vous dis pas le titre. Voyons si vous le reconnaissez en écoutant la toute première scène.
Hey Julie, do you have my glue eyelash?
Yeah, it's in the little tiny dressing room over here.
Okay.
Get it.
Eve, you're in my chair again.
Sorry.
Oh, you don't have to move. I'm just being stupid.
Where did
we move?
Up. Oh.
Début en anglais, Laurent Delmas. Oui, mais pour un film français de et avec Mathieu Amalric.
Tournée, tel est son titre, Dorothée, c'est son nom, oui. Et il a pour héroïne les stripteaseuses américaines de la troupe engagée et féministe du New Burlesque que l'on vient d'entendre dans leur loge avant le spectacle. Ex-producteur de télévision parisien à succès, Joachim Zand, alias Mathieu Amalric, donc, après avoir tout plaqué, est de retour en France pour organiser une tournée de ce spectacle. Pas tout à fait comme les autres.
Ça, c'est feuille.
Ça, c'est bien joué. Du Havre à Toulon, en passant par la Charente-Maritime, Mimi de Meaux, Rocky Roulette et Dirty Martini, entre autres, revisitent sur scène pour de vrai, depuis une dizaine d'années, la vieille tradition du musical américain, elle-même influencée d'ailleurs par les revues françaises de la fin du 19e siècle.
Ok, Houston
Elles tiennent donc, dans ce quatrième film, réalisé par Amalric, leur propre rôle, tout au long d'une véritable tournée organisée par le réalisateur en France.
Le micro marche pas, putain. Le micro !
Entre fiction et réalité, on les suit avec jubilation, dans les coulisses, sur scène, dans les trains et les hôtels. Tout charme dehors, elles séduisent par leur vitalité débridée autant que par un second degré dévastateur pour le machisme ambiant.
If love loves you, France is gonna love you.
Au milieu, Joachim Zand promène sa silhouette et ses nombreux problèmes.
Vous pouvez baisser la radio.
Il est capable de tout pour séduire, y compris à la caisse d'une station-service en pleine nuit.
Moi, c'était la totale, là, le téléphone portable, la cigarette.
Ah, pardon, oui, excusez-moi.
Vous allez où?
Je vais chercher mes enfants. Non, je rigole. Tu es quelqu'un.
Ah, vous avez de la chance. Allez. Ça doit faire du bien.
Ben, je vous raconterai.
Vous avez ce qu'il faut? Parce que sinon, j'ai une lime.
Pas cher. Ben, j'ai un cric, je préfère, c'est mieux. Bon, vous voulez que je vous ramène quelque chose de Paris?
Non, non, non. Pas un pain au chocolat ou... Enfin, excusez-moi, pardon.
Ah, pardon. Monsieur.
Oui, il est l'autre héros de ce film. Mi-dandy, mi-escroc, toujours au bord de la faillite, piquant les bonbons par poignée à la réception des hôtels et demandant sans cesse, mais en vain, qu'on coupe la musique d'ambiance dans ces mêmes hôtels, comme on le comprend. Digne héritier de John Cassavetes et de Jacques Rosier pour les errances nocturnes et le dynamitage de l'ordre établi, Mathieu Amalric, avec Tournée, signe un film en grande liberté. Célébration d'un cinéma d'auteur sans entrave ni tabou. Ses héroïnes et son héros n'en finissent pas de bousculer la culture de la réussite et de la perfection à tout prix. Bah, cette tournée-là, on aimerait en être pour partager les moments de joie et de bonheur que vivent ses protagonistes, même si la vie n'y est pas toujours rose comme il se doit.
Un, deux. Les filles, vous m'entendez ?
On en retrouve au moins l'esprit avec la belle BO du film, dont ce titre du groupe américain des années 60, The Sonics, intitulé Have Love Will Travel, et que l'on entend notamment dans le générique de fin. Prochaine séance, lundi, même heure.
Tournée de Mathieu Amalric, c'est à voir sur universciné.com. Merci à Laurent Delmas et Anne Venfel. Quelle chance, il me reste quelques secondes pour un conseil de sortie. Amis auditeurs et auditrices, si vous passez par Paris dans les semaines, les mois qui viennent, allez vous promener place du Panthéon pour voir les noms de femmes célèbres qui ont été gravées sur le sol. Et c'est un projet à l'initiative du collectif Georgette Sand, dont on parlait tout à l'heure. Les Monumentales, c'est le nom de ce projet. Rendez-vous place du Panthéon à Paris. J'irai bien faire le marché, moi, maintenant. Bonjour Aurélie Sfez.
Mais bonjour Dorothée Barba.
On arpente la France grâce à vous tous les jours. Où est-ce que vous êtes aujourd'hui?
Oui. Et puis c'est notre dernier jour en Bretagne. Oh. On est à Bru, avec un Z. Ça s'écrit B-R-U-Z.
Ne le prononcez pas, sinon vous allez recevoir des dizaines et des dizaines de courriels. Voilà.
C'est ça. On dit pas Bruse. Hein.
On dit pas Bruse.
On est à côté de Rennes, c'est notre dernier jour ici. On est un peu triste de quitter la Bretagne, mais content d'aller dans une nouvelle région la semaine prochaine. Et puis ici, on va apprendre à survivre et à se défendre.
Très
avec
bien.
Nos invités bretons.
Rendez-vous, place du marché, ce sera juste après le flash de 11h. Et demain, samedi à 9h, vous retrouverez l'ami Emmanuel Kérad pour la première librairie francophone estivale.